Salut, ici Ziad Malouf. Cette semaine encore, l'atelier vous propose une rediffusion. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais avant de travailler pour RFI, j'ai fait des études d'histoire et j'ai beaucoup aimé cette discipline. J'ai donc un respect infini pour tout ce qui est vieux, ancien, daté, tout ce qui est marqué fortement par son temps, son contexte. Je vous dis cela comme un avertissement, car avec Simon, nous avons décidé de vous faire réentendre aujourd'hui notre émission du 10 janvier 2015. Une spéciale Charlie Hebdo diffusée quelques jours après l'attentat qui avait ciblé et touché la rédaction du journal satirique. Une émission que nous avions produite en 2 jours à peine, un moment d'histoire pour nos vies, pour notre métier, pour notre ville, notre pays, pour ce programme, un moment d'espoir et de recueillement, un moment de choc et de rage. Tout cela, vous allez le retrouver dans ce programme, cet instantané sonore construit et réalisé avec les propos de la rue, soulevés au soir du 7 janvier, avec des paroles de journalistes tenues en direct sur la chaîne vidéo de Mediapart et avec les chroniques de Francis Pisani et Marie-Catherine Beuth, nos complices de toujours. Je sais que cette rediffusion pourrait indisposer des oreilles. L'emphase de certains propos nécessaires dans le contexte violent de l'époque peut sembler dissonante à froid 3 ans plus tard. Il n'empêche que faire un pas de côté, se revoir et revivre des moments fondateurs de nos vies et de notre voyage collectif, c'est utile et nécessaire. De même que sont utiles et nécessaires les nombreux avertissements que vous allez entendre dans cette émission, les appels au calme, à la mesure, à la solidarité et à la fraternité, des appels et des vœux restés vains pour la plupart. Bonne écoute.
Light break. L'atelier des médias. RFI. Where no sun shines.
Bonjour à tous, la France est sous le choc au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo. 12 morts en plein Paris, dont 5 dessinateurs de renom, Cabu, Volinsky, Tignous, Honoré et Charb, abattus par 2 hommes armés de Kalachnikov. Des dessinateurs connus des Français, pour certains depuis des décennies, connus pour leur seule arme, leur humour, et réfutaient toute méchanceté dans l'esprit de Charlie Hebdo.
Je suis Charlie.
Nico Charlie.
Gas Charlie.
I am Charlie.
Anna Charlie.
Man Charlie Hasta.
Man Charlie.
Bieke Charlie.
Eu sou Charlie.
Somos todos Charlie.
Kuluna Charlie.
Charlie A.
Nyongu Kia Charlie.
Anna Charlie.
Nuru Charlie.
Anna Charlie.
Le 7 janvier, au soir, les peuples du monde et de Paris ont choisi de se réunir pour témoigner de leur solidarité et de leur révolte. Peu après, la rédaction de Mediapart a accueilli une 20aine de journalistes et de militants pour une veillée en hommage à Charlie Hebdo, à ses équipes et aux victimes de la tuerie qui s'était déroulée le matin même. Dans cette émission, vous allez entendre les voix de la rue et les témoignages et réflexions de femmes et d'hommes, journalistes ou non.
Quand on y réfléchit, un dessin, c'est quelque chose qu'on peut comprendre sans même savoir lire. Et du coup, ça a beaucoup plus d'impact, vraisemblablement, sur la société que ce que peuvent avoir nos plus belles enquêtes, nos plus beaux reportages, etc. etc. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard si, précisément, les gens qui ont mené cette opération ont visé un journal de dessinateurs.
Roger Martelli, Regard.
C'est difficile de parler quand on est de la génération Charlie, qu'on est donc profondément en deuil. C'est difficile de parler aussi quand, devant l'indicible, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre réaction possible que le silence ou le cri. Et pourtant, il faut parler. Il faut parler parce que parler, c'est être libre. Et ce qu'ont montré les gangsters du fanatisme, c'est que leur pire ennemi, c'est la liberté. Et donc, si leur pire ennemi, c'est la liberté, ça doit être notre meilleure arme pour les battre. Il faut donc parler. Parler pour dire l'indignation. Parler pour dire la peine. Parler pour dire la solidarité avec ceux qui sont dans la douleur, avec les morts, avec leurs familles. Il faut parler de tout cela. Et il faut parler pour chercher à comprendre. Et moi, je crois que sur quoi on doit réfléchir, c'est qu'on est dans un monde qui est un monde instable, fragile, où la violence affleure partout. Et dans ce monde-là, on veut nous habituer à l'idée que la menace permanente débouche sur un état d'exception permanent, débouche sur le fait que les communautés n'ont de choix que de s'enfermer ou de s'affronter. Et donc la peur devrait être notre horizon. La peur de tout, la peur de perdre son identité, la peur de ne plus être chez soi, la peur tout court. Or, quand il y a de la peur, il y a du ressentiment. Et quand il y a du ressentiment, qu'est-ce qu'il y a ? De la frustration, de la violence. Et donc je crois que ce qu'on devrait se dire, c'est que si l'on veut combattre le fanatisme, la première chose qu'on doit faire, c'est de commencer à faire reculer la haine. Refuser d'attiser la haine. Il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas accepter l'idée, me semble-t-il, qu'on est dans une guerre civile proche, que la guerre civile est à notre porte. Et que comme la guerre civile est à notre porte, la société, elle doit se replier sur elle-même. Elle doit se crisper. Elle doit se protéger avant tout. Il faut écarter tout ça. Il faut écarter tout ça parce que si on ne l'écarte pas, eh bien les fanatiques ont des bourgeures devant eux. On nous dit qu'aujourd'hui, la question principale, la question clé de nos sociétés, c'est la question des identités. Il faut protéger les identités qui s'opposent, qui s'affrontent. Moi, je crois qu'il ne faut pas l'accepter. Ce qui doit être notre objectif, ce n'est pas l'identité, ce n'est pas l'obsession de l'identité. Ce qui doit être notre objectif, notre horizon, c'est l'égalité accolée indissociablement à la liberté. C'est ça qu'il faut défendre, c'est ça qu'il faut protéger.
On a voulu se souvenir de confrères, d'amis, parfois d'amis proches pour certains, de camarades, de travail, de gens avec qui on a pu avoir des désaccords, mais avec lesquels on défendait les mêmes idéaux.
Edoui Plenel, de Mediapart.
On a voulu faire au vieux sens des campagnes, au vieux sens des familles, une veillée. Une veillée, c'est pas forcément un moment sinistre, c'est un moment où on se souvient, où l'on se rassemble, où l'on trouve ce que l'on a en commun et où on le défend. L'événement qui a eu lieu aujourd'hui, nous n'en sentons que le début de l'onde de choc. C'est un événement sans précédent. Jamais, jamais, dans une démocratie tranquille, paisible, normalement, on a assassiné un journal. Jamais on a été tué toute sa rédaction. Dans nos sociétés ouvertes, nous savons que des basculements de ce genre peuvent toujours arriver. On ne va pas mettre un policier derrière chaque journaliste. Et donc c'est une interpellation immense de se dire pourquoi ce basculement peut-il arriver chez nous aujourd'hui ? C'est un attentat aux libertés, à nos libertés. Ce n'est pas que la presse qui est concernée. Nous avons l'habitude de dire la liberté de la presse, ce n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens. Et c'est en ce sens que nous avons lancé un appel à tous ceux qui pouvaient venir. Certains n'ont pas pu se libérer, certains n'ont pas donné suite. Journaux, journaux papier, journaux en ligne, représentants de la défense des droits humains, de la société, dessinateurs, pour que, voilà, on dise à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent ce soir, à la fois ce que nous avons en commun, ce qui nous rassemble, ce que nous voulons défendre, et en même temps qu'on dise, en tout cas je peux le dire pour Mediapart, François Bonnet, son directeur éditorial, l'a exprimé dès ce soir, que c'est une alarme pour nous tous. On ne peut pas jouer avec les haines, avec les peurs, avec la guerre de tous contre tous, des identités contre les identités, des religions et d'autres, comme on jouerait avec des allumettes. Nous avons rappelé une phrase très ancienne d'Émile Zola dans un autre contexte qui annonçait d'autres temps difficiles, de catastrophes européennes, où il disait « À force d'agiter un épouvantail, on finit par produire des monstres ». Nous avons des monstres là, des monstres qui ont tué 12 personnes, des monstres produits de notre époque. Et donc, face à cela, il faut que nous nous ressaisissions. Il faut que nous prenions conscience de la difficulté de ces temps, que nous réinventions des causes communes, des chemins ensemble, de la solidarité. Je pense à Charb, à Tignus, cette soirée que nous avions fait ensemble. Je pense à Bernard Maris, qui est un économiste que nous avons tous eu l'occasion de rencontrer. Je pense à Georges Wolinski, qui nous a tous accompagnés, quels que soient nos âges, qui est un symbole de l'irrévérence consciente, de l'irrévérence subtile. Et puis je pense à Cabu, le grand Duduche pour ma génération. Cabu, cette légèreté, cette douceur et en même temps cette grandeur dans ce moment-là. Et à tous les autres, bien sûr, et sans oublier les policiers. Nous sommes là pour dire tout simplement non à la haine, pour la liberté, de manière indissociable, en bloc, la liberté de tous, toutes les libertés fondamentales, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, la liberté de croyance, la liberté d'opinion, la liberté de réunion, la liberté de manifestation, toutes ces libertés fondamentales qui sont au cœur d'une démocratie.
Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté !
Quand j'ai entendu ça à midi, j'ai pleuré. C'est une des choses les plus affreuses que d'attaquer la presse. La presse, c'est nous, c'est la démocratie, c'est le peuple. Si on attaque la presse, c'est nous. Il ne faut pas les laisser faire, qui que ce soit. C'est pour ça qu'on est tous là ce soir, avec nos petites voix, nos petits bras. Mais il faut montrer qu'on est là et qu'on ne se laissera pas faire. Ben, en France, on a encore ça. On a quand même la liberté de parler, la liberté d'écrire, de dire ce qu'on veut. Donc ces gens-là, ils sont morts pour ça. Et pour leur mémoire, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qu'on ne retombe pas dans l'obscurité.
Charlie, 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 vivra ! Charlie, 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 vivra !
Je trouve ça assez déprimant, c'est un peu la fin d'une époque, un style d'expression qui est en train de disparaître. Mais peut-être que cet événement va renouveler un peu cette liberté qu'on a... qu'on a un peu perdu depuis ces temps-ci. J'espère qu'on va prendre la relève derrière. Ça va se... Voilà.
J'ai envie de pleurer. Et en même temps, j'ai une grande détermination qui naît en moi. Je ne suis pas de gauche. Charlie, je connais. Cabu, je connais depuis des années. C'était mon adolescence. C'était... Et je veux dire à ces terroristes que s'ils ont pensé me faire peur, moi qui suis un tout petit français, ils se sont trompés. S'ils ont pensé que j'allais me taire, ils se sont trompés aussi. C'est une erreur qu'ils ont faite. Ils ne connaissent pas l'histoire de France. La France ne s'est jamais tue et la France n'a pas peur. Ils se sont trompés. Voilà.
Stéphane Durand Soufflant, Le Figaro.
Ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, je suis content d'être là avec vous. Je trouve que c'est bien qu'un journal ait réuni tous ces gens comme ça aujourd'hui, parce qu'on a tous pris un énorme choc, soit parce qu'on a perdu un copain, et Michel Deléant et moi, on en a perdu un, Quetignus, soit parce que simplement la barbarie de cette tuerie est révoltante. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la dernière fois qu'il y a eu un dessin de presse dans Le Figaro, ça devait être de Jacques Faisan. Les plus anciens d'entre vous se souviennent. Mais demain, il y en aura un de Charb. Grand, pleine page. Et puis le Bordeaux bleu est devenu noir. Et puis le titre, c'est La liberté assassinée. Et puis Jean Dormesson écrit Nous sommes tous des Charlie Hebdo. Je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien. Nous, journalistes, on est Figaro, Mediapart, on appartient à une grande communauté. Je ne suis pas très grégaire de nature, mais il y a des moments où c'est bien. Je pense que on a dit aussi, ça va être à nous, alors là c'est plus le chroniqueur judiciaire qui parle, mais d'essayer d'expliquer aux gens que c'est certainement pas avec des Patriot Act ou des choses comme ça qu'on va empêcher ça, puisque la preuve... D'ailleurs, les mesures, enfin, depuis Perben, les mesures répressives n'ont cessé d'être élargies et on voit bien que ça ne marche pas. Donc, il faut espérer que des voix vont s'élever. Et moi, je les attends un peu, ces voix qui vont porter un message un peu différent que le message très simpliste qui circule. Je sais que la communauté des journalistes se resserre autour d'elle-même pour des bonnes raisons, c'est-à-dire pas pour une raison corporatiste, pas pour défendre un abattement fiscal ou une chose comme ça. Et je suis très très fier que les journalistes du Figaro partagent le chagrin de tout le monde et l'expriment clairement dans les colonnes du journal.
Christine Lazerge, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Et moi, il me vient immédiatement à l'esprit, j'ai envie de le relire ce soir, l'article 11, je l'ai sous les yeux, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 89. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Et c'est un vocabulaire presque un peu étonnant, en 1789, que de qualifier un droit fondamental, la liberté d'expression, de précieux. L'un des droits les plus précieux de l'homme. Et le texte ne s'arrête pas là. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. Et je me dis que ces dessinateurs, qui sont morts ce soir, ces caricaturistes, sont en fait des fantassins de la démocratie. Et alors, on a des repères sur la liberté d'expression. J'ai aussi envie de vous lire autre chose qui est intéressant, c'est ce que dit la Cour européenne, qui a clairement posé que la liberté d'expression vaut, et je la cite, non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, qui choquent ou qui inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Et c'est la Cour de Strasbourg qui dit ça. Et ainsi, le veulent le pluralisme, ajoute-t-elle, la tolérance, l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de société démocratique. Donc c'est bien notre société démocratique qui est atteinte au cœur aujourd'hui. Évidemment, nos pensées vont tout de suite à ces 12 familles cruellement touchées, mais il y a aussi une douzaine de blessés. Et il y a aussi ces deux policiers, et donc la République protégée. C'est important de rappeler que du coup, la République protégeait Charlie Hebdo. Et alors, le dernier point, c'est qu'on est tenté, devant des événements aussi dramatiques, de dire « allez, modifions le droit ». Il n'y a pas assez de règles dérogatoires pour lutter contre le terrorisme. Et là encore, il faut dire haut et fort que si lutter contre le terrorisme, c'est diminuer le degré de nos libertés fondamentales, c'est exactement l'erreur manifeste à commettre, parce que la plus grande victoire du terrorisme, ce serait de mettre en péril l'état de droit.
Cher Charles, cher Cabu, salut Volinsky, hello Honoré, hello Tinius, c'est Marie-Catherine. C'est triste et étrange de vous écrire cette lettre. Quand je me suis réveillée mercredi, ici, tout mon Facebook, tout mon Twitter criait Charlie. Ça m'a surprise. Et un clic a suffi pour comprendre. Comprendre le drame qui s'était produit et immédiatement, ma gorge s'est nouée. D'un clic, les héros de ma jeunesse bédéphile avaient disparu. Pour mes amis américains, le drame était un peu plus difficile à réaliser. Ils étaient effrayés, mais ils étaient surtout inquiets à l'idée que j'ai pu perdre des amis dans cette sinistre histoire. Je n'ai pas perdu d'amis, j'ai perdu plus que ça. J'ai perdu la conscience de ma société. Vos croquis insolents des travers sociaux et politiques de notre monde m'ont accompagné depuis l'adolescence. Vous m'avez aidé à mieux comprendre ce monde, à m'y orienter, interrogeant ma morale, taquinant mes opinions, offrant des traits d'esprit en libre service qui m'aidaient à faire rire les copains, parfois, et à appréhender des réalités qui me chagrinaient d'autres fois. Ce rôle que vous avez joué pour la société française aux États-Unis, je vois des personnalités comme Jon Stewart et Stephen Colbert l'endosser soir après soir à la télé. Ils moquent la folie de l'État islamique, comme celle du Tea Party, ratatinent indifféremment le pouvoir en place et ceux qui se réclament du quatrième pouvoir. Pour expliquer à mes camarades américains le sentiment de perte immense que je ressentais, j'ai dit « Imagine ». Imagine que des tueurs débarquent chez Comedy Central et abattent Jon Stewart et Stephen Colbert. Et là, comme dans un cartoon, leur mâchoire s'est décrochée et les yeux sont sortis des orbites. Oh, waouh. Deux onomatopées en guise de retour à la réalité. Il me semble que ce n'est que là, alors qu'ils partageaient déjà tous le hashtag « Je suis Charlie » sur les réseaux sociaux, qu'ils ont aussi compris qui était ce Charlie. Personnellement, je suis contente d'avoir fait votre connaissance il y a une vingtaine d'années déjà. J'étais alors passionnée de BD. À force de vous feuilleter, j'ai aussi pris goût à l'actualité. Et si je fais aujourd'hui un métier pour lequel on peut encore, en France, en 2015, se faire crever, c'est sans doute un peu de votre fait. Alors, je n'avais pas pris de résolution pour 2015, mais là, vous m'en offrez une sur un plateau. En 2015, je décide d'être plus insolente. Merci.
RFI.
Au rythme de la vie, je marche Madonna, et je marche Charlie. Je ris et je pleure, c'est l'âme de silence, pour libérer nos cœurs, pour apaiser ma France, dans mes bras grande sœur. Arroser nos âmes, nous avons vu pousser dans le cœur de Paname des fleurs d'éternité pour célébrer toujours l'humour en liberté. On a senti l'amour dans l'air, le vent siffler. Je suis tué, il est nous sommes à l'unisson comme un seul âme dans mes pensées, comme un cri dans la ville à bout portant.
Apparemment non.
Ah bah oui, mais il y a des blessés.
Oui.
Il y a énormément de blessés.
Bah, je peux informer. Nous,
on a connu Charlie dès le début parce qu'on est vieilles dames. Mais non, moi, dès le début, j'ai toujours lu Charlie. C'est des personnalités intellectuelles. Des personnalités intellectuelles. C'est pas des faux culs. C'est pas des faux culs, quoi. Hein. Intellectuellement, c'était des gens qui tenaient la route, quand même. Hein. Pas tout ce qu'on voit dans les médias. Mais c'est des journaux libres, où il n'y a pas de sponsor derrière. Donc, ils ont la liberté de parole. Donc, je trouve qu'ils ont fait beaucoup pour les jeunes de maintenant. Parce qu'avant, en 63, il fallait voir ce que c'était... la société, hein. Ouais. Parce qu'entre la guerre et Charlie Hebdo, il n'y avait rien. Hein. Cavana disait, je ne fais pas un livre pour plaire. C'est un livre contre la connerie. C'était pas un livre pour plaire aux bourgeois.
Est-ce que vous avez en tête vos premiers souvenirs de Charlie Hebdo ?
Oui. Oui, en tête, les souvenirs de Charlie Hebdo. Alors, j'étais aux États-Unis et puis j'avais un copain qui était en poste, un Français, et puis il lisait Charlie. Et puis il me fait lire Charlie. Et j'ai été subjuguée. Et j'ai dit, il faut que je rencontre cette personne. Il faut absolument que je rencontre Cavana. Il faut que j'aille au journal. Ça m'a fait un choc, vous ne pouvez pas savoir. C'était une bouffée d'air, Oh, quelque chose de magnifique. Ah, mais ça m'a touchée profondément. Hein. Et puis j'ai été une martyre. Je suis la première martyre de Charlie Hebdo. Je travaillais. Et je lisais Charlie à l'heure de mon déjeuner, j'étais tranquillement, et puis le patron passe, il me l'arrache des mains, il s'en va pendant une heure le lire, il revient, et il me dit, qu'est-ce que c'est que cette saloperie, des gens qui lisent cette saloperie, des gens. Mais je dis, monsieur, vous venez de le lire, il m'a foutu une claque à un aller-retour. J'étais au commissariat, j'avais tout sur la joue, il avait tout lu, là. S'il n'avait pas trouvé ça bien, il n'aurait pas tout lu. Hein. Donc c'est ça, et puis l'ami qui m'a fait connaître ça, la première fois. Il y avait des trucs insensés, mais ça fait du bien. Vous savez que de rire, malgré les choses sérieuses, ça fait du bien de rire.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont morts de rire?
Moi, j'ai beaucoup d'humour. J'aime beaucoup ça.
MDR, là,
pour moi, ça, c'est comme de boire et manger. Hein.
Daniel Schneiderman, Arrêt sur image.
On parle d'identité souvent. Qu'est-ce qui fait notre identité ? Moi, ce qui fait mon identité de Français, parce que une des choses qui ont fait mon identité de Français, c'est les dessins de Cabu. C'est Pilote, c'est le Grand Duduche, c'est Volinsky. Puis après, je peux vous dire que toutes les petites nénettes qui étaient dessinées par Volinsky dans les années 70, elles m'ont quand même sacrément fait fantasmer. Je veux dire, c'est tout ça qui est remonté aujourd'hui. Et c'est tout ça qui fait qu'on a du mal à appréhender, à comprendre. Et c'est nous, au plus profond, qui avons été touchés. D'abord, nous comme personnes, et ensuite, évidemment, nous comme journalistes. Alors, bon, Arrêt sur image, c'est pas un secret, on n'a pas toujours été d'accord avec Charlie Hebdo. quand on va à la virée ciné, on a pris le parti de ciné. On a parfois trouvé que, d'accord, ils étaient humoristes, ils étaient marrants, mais qu'ils étaient parfois aussi un peu, on les sentait parfois aussi en guerre. Et on se demandait, mais est-ce que c'est vraiment le rôle des humoristes d'être en guerre comme ça? Contre quoi ils sont en guerre? Est-ce qu'on a envie d'être en guerre? Est-ce qu'on a envie de plonger comme ça dans une guerre? Donc on a eu des débats, et ces débats étaient légitimes. Et je regrette pas qu'on les ait eus, ils étaient nécessaires. Enfin, mais simplement, je pense qu'il y a un avant le 7 janvier 2015 et il y aura un après le 7 janvier 2015. Je veux dire, le 7 janvier 2015, tout d'un coup, il nous place face à ce que doivent être nos priorités. Pour moi, c'est absolument clair. La priorité, ça doit être le droit à la libre expression, à l'humour, à la provocation, à l'excès. Ça doit être le droit à aller trop loin, à refuser de se fixer des limites éventuellement, ou en tout cas à ne pas accepter que quelqu'un d'autre vous fixe vos limites. Ça nous place, nous journalistes, dans une situation bizarre et qui est potentiellement dangereuse. Moi, j'ai fait un petit papier ce matin sur Arrêt sur Image, où j'ai un peu rappelé tout ça, et j'ai dit, dorénavant, quiconque d'une manière ou d'une autre pourra justifier ce qui s'est passé aujourd'hui, le 7 janvier 2015, je le considérerai comme un ennemi. C'est le mot ennemi qui m'est venu sous la plume. Et je l'ai écrit et je l'ai mis en ligne. Puis après, je me suis dit, mais t'as dit ennemi, donc t'es en guerre. Je suis dans cette contradiction où à la fois...
Alors vous le retirez, le mot ennemi ?
Il est écrit, mais maintenant je m'interroge. Je veux dire, à la fois il est écrit, je me sens en guerre, on va dire comme être humain, mais j'ai pas envie de me sentir, j'ai pas envie de devenir un journaliste en guerre. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il faut pas qu'ils aient la peau de Charlie Hebdo. Faut que Charlie Hebdo continue.
C'est pas terminé, Charlie. Enfin, j'espère, on espère tous que ce sera pas terminé. Il faut pas que ce soit terminé. Il faut qu'il ressorte un truc. Il faut qu'il y ait des gens dans les hautes sphères de l'État, dans les hautes sphères de la presse, qui prennent le relais, quoi. Il faut pas que ça s'arrête. Il faut pas laisser la peur, laisser une bande de tarés nous dicter ce qu'on peut écrire, ce qu'on peut pas écrire, ce qu'on peut dire, sur quoi on peut rire, sur quoi on peut pas rire. Charlie Hebdo, c'était le droit de rire de tout. C'est le devoir de rire de tout. Et aujourd'hui, on est tous là pour dire ça, quoi. On est tous là pour dire que c'est pas parce que deux tarés ont massacré 10 journalistes que la presse française et la presse de je ne sais où, de tous les pays du monde. Ça fait rien avancer, ça fait pas avancer le débat, ce genre d'action. Les premières victimes, c'est l'islam même de ça.
Exactement. Enfin,
c'est tous les musulmans modérés qui sont 5 millions en France, voire 7 millions peut-être, et qui sont là, mais putain, pour deux malades, j'espère vraiment que les politicards français vont pas faire de la récupération stupide sur ces sujets. Aujourd'hui, il y a deux mecs qui ont complètement pété un câble et qui ont fait un carnage, et c'est ignoble. Mais ça veut pas dire pour autant que le reste des musulmans est bon à acheter, quoi. Je veux dire, c'est aussi pour ça, moi, que je suis venu, c'est pour essayer de me rappeler de ça, et parce que des fois, c'est dur. Il y a des moments où on lutte contre ses bas instincts, quoi, dans ces moments-là. Et j'espère vraiment que ça va pas partir en couille. 2015 s'annonce comme une année terrible quand on voit comment ça commence. Enfin, entre ça, le bouquin de Houellebecq et Zemmour et tous ces mecs qui surfent sur des vagues de sujets qui sont tellement faciles, c'est tellement plus facile de dire que c'est la faute des musulmans qui n'ont même pas de voix quasiment dans la politique française. Je veux dire, qui représente aujourd'hui les musulmans dans la politique française? Il n'y a personne dans les hautes sphères, même dans les collectivités locales, il n'y a personne. Et en face de ça, il y a tout un tas de gens qui font tout un tas de saloperies dans notre dos, mais ces gens-là, c'est trop complexe, ils sont trop puissants, ils sont trop bien cachés. C'est beaucoup plus facile de dire que c'est la faute des robeux, que c'est la faute des roms, que c'est la faute des machins. Enfin, moi, ça me fait gerber, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, c'est pour Charlie et c'est pour tous ces gens-là. C'est juste, voilà, c'est une prise de position humaine, j'espère. Et j'espère qu'on est tous à penser ça ici aujourd'hui. Et que tous ces drapeaux français et que toutes ces lumières sont là pour dire, voilà, Charlie, c'était bien, c'est bien, ça restera bien et ça va continuer. J'espère.
Tout ce que c'est que mercredi prochain, Charlie va sortir. C'est très important que Charlie sorte mercredi prochain.
Je voulais juste vous dire que lorsque Edoui a parlé de veillée, moi la dernière fois que j'ai participé à une veillée, c'était dans ma cité, c'était il y a quelques années.
Nordin Nabili, Bondy Blog.
Et les veillées dans les cités, notamment à la fin des années 70 et tout au long des années 80, c'était des moments justement où on avait des cadavres sur les bras et on ne savait pas quoi en faire, on ne savait pas où les enterrer, on n'avait pas l'argent pour les envoyer au pays, pour cette génération qui souhaitait repartir. Et c'est ces cadavres qui nous étaient envoyés par les chantiers, par les usines. Donc il y avait déjà une petite guerre économique autour de cette génération, la génération de mon père. Et tout à l'heure, les uns et les autres ont parlé de ces tensions qui existent aujourd'hui entre les organes de presse aujourd'hui, ce qui est naturel. On est dans un milieu médiatique et les différentes stratégies ne sont pas forcément les mêmes. Et donc il y a des tensions qui existent. Et je me suis souvenu au moment où, où Denis Sifert parlait justement de cette question de ne pas être d'accord avec les confrères ou les consoeurs, de ces analyses de mon père quand il me ramenait au volant de sa 504 après l'éveillé, qui m'expliquait que finalement, les morts laissent toujours un message. Et en réalité, je pense que c'est pour ça que je veux rester, moi, malgré tout, dans l'émotion. Je pense que le message qui nous est aujourd'hui délivré, c'est justement qu'il faut continuer. C'est-à-dire qu'au-delà, évidemment, de tous les amalgames sur lesquels on va commencer à mettre le doigt, certains le font déjà depuis quelques années, et ça va leur donner un élément supplémentaire de la stigmatisation. Je pense que, en tous les cas, en ce qui nous concerne, nous, Bondy Blog, les acteurs qui travaillent sur ces questions, les éducateurs, les enseignants, enfin, toutes ces personnes, finalement, qui sont l'extrême majorité de ce pays, le ciment de la cohésion sociale de ce pays, et qu'on n'entend pas forcément partout. On entend d'ailleurs davantage les souffleurs de braise que eux. Eux resteront demain, eux ont pris un coup, ont pris une claque aujourd'hui, ils auront la gueule de bois demain matin, après-demain, mais dans une semaine, ils seront là, dans les facultés, dans les lycées, dans les collèges, dans les MJC, dans les rues, avec les mômes et ainsi de suite, et eux continueront à rêver la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et nous, en tant que journalistes, on n'a pas le droit de baisser les bras, même si effectivement c'est la presse qui a été attaquée et au-delà de la presse, évidemment, la liberté, la République assassinée. Nous ne sommes que les courroies, finalement, de transmission d'un état d'esprit. Mais il faut dire que l'état d'esprit actuel de la presse française est un état d'esprit anxiogène. Et ça aussi, il va falloir, une fois qu'on passera à l'acte de l'analyse, il ne faudra pas se priver de dire aussi ce qui va et ce qui ne va pas. Et le dernier point pour revenir sur la question du père de famille que je suis, c'est que finalement, moi, la situation que nous sommes en train de vivre depuis maintenant une demi-journée, je l'ai déjà vécue. Je l'ai vécue après le 11 septembre, je l'ai vécue après 2004 avec les attentats à Madrid. Je l'ai vécue bien avant, quand j'étais directeur de la rédaction de Beurre FM, pendant la décennie des années 90. Donc c'est,
la décennie noire, bien sûr,
où les journalistes ont été des cibles. Où on prenait l'antenne et on nous appelait d'Alger une heure avant, en nous disant, voilà, il y a une bombe qui a explosé, on avait les gens qui étaient au téléphone, et on était là, et on était là. Et moi, je pense que c'est le moment d'éprouver quelles sont réellement nos valeurs. C'est le moment, aujourd'hui, de leur dire à ces gangsters que nous sommes là, et que, de toute façon, ils seront toujours plus forts que nous, parce que le coup d'éclat de trois personnes fera toujours plus de bruit que 25 000 journalistes qui se lèvent tous les matins pour travailler. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra d'abord que nous, on s'attende à d'autres situation, et c'est vrai qu'on ne pourra pas mettre un Condé, comme on dit vulgairement, derrière chaque journaliste, mais il faudra de toute façon, dans nos écrits, dans nos paroles, dans nos prises de position, dans nos valeurs, dans nos déontologies, poursuivre ce combat, parce que d'abord, la liberté d'expression n'a jamais été un acquis, ce n'est pas arrivé un matin par la poste, ça a été aussi l'objet de luttes incessantes, et tous les acquis qui ont fait l'objet de luttes incessantes sont encore plus fragiles que ceux qu'on vous a offerts. Donc d'une manière ou d'une autre, le vrai combat continue. Et finalement, il faudrait transformer ce drame, et c'est pour ça que les morts nous laissent toujours un message positif, dixit mon père, c'est qu'il faut absolument expliquer aujourd'hui à la société française qu'effectivement, nous avons pris un coup, nous avons mis un quart d'heure pour avaler ce qu'il faut avaler, mais à partir de demain matin, on continue. On continue de travailler.
Bon, il y a le moment là maintenant, et puis il y a que maintenant, ça prépare demain, après-demain, et la semaine suivante, et le mois, et l'année, etc.
Xavier Delaporte, rue 89.
Il y a deux choses contre lesquelles on va devoir résister, qui est une tentation d'enjoindre des gens à se désolidariser de cet acte. Et que cette injonction à la désolidarisation, c'est quelque chose que je trouve absolument terrible. Comme si des gens pouvaient être solidaires, comme s'il y a des gens qui étaient a priori solidaires, a priori alliés objectifs. Bon. Cette tentation d'enjoindre à la désolidarisation, évidemment, c'est facile de lutter contre cette tentation quand on lutte contre des journaux qui sont ouvertement, enfin, contre, etc. Mais c'est beaucoup plus difficile de lutter contre notre propre intérieure volonté que des gens se désolidarisent. Donc, première chose, voilà, n'enjoindre personne de se désolidariser de ses actes a priori. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que sans doute qu'une des grandes victoires d'un acte comme celui-ci, c'est de plus permettre le débat. Il y a des choses dans ce que disait Charlie qu'on n'aimait pas. Des gens ici n'aimaient pas. Il faut pouvoir continuer à dire qu'une fois que le deuil sera passé, il faudra reprendre ces débats. Voilà. Il faudra continuer à dire, ben voilà, moi j'aimais pas comment il parlait de l'islam. Il s'agit pas, il faut passer un temps, évidemment, c'est pas le moment de le dire maintenant, mais pas oublier que La démocratie, justement, c'est aussi de la discussion, quoi. Et c'est aussi de la discussion, c'est pas seulement la discussion contre des gens qui ont commis des actes terribles, c'est aussi la discussion à l'intérieur, pour définir ces définitions. Voilà. Donc c'est les deux choses qui, aujourd'hui, me semblent nécessaires d'avoir en mémoire, enfin en tout cas, moi j'essaierai d'avoir en mémoire, pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent et les mois qui viennent.
Non.
T'habites en France, la République, liberté, égalité.
Tu peux être de gauche. Elle a fait quoi, la République? Elle a créé quoi? Elle t'a donné quoi?
Elle m'a donné l'école, elle m'a donné la
sécurité
sociale.
Elle t'a donné tout ce système dans lequel on vit, qui est un gros mensonge, qui est une grosse foutrerie. Okay. Bien sûr, c'est bien sûr, aujourd'hui.
Mais c'est quoi le rapport avec le drapeau?
La République, elle est totalement un système liberticide. Bien sûr, mais ouvre les yeux.
Liberté d'expression.
Pour ma part, je suis horrifié à plusieurs titres.
Abdelkrim Branine de Beurre FM.
En tant que journaliste, c'était des confrères. En toute transparence, on a eu des désaccords sur pas mal de choses. On a eu quelques rares échanges assez taquins. Je le disais en tant que journaliste, en tant que citoyen et aussi en tant que musulman. Personne de culture musulmane ou musulman d'apparence, pour paraphraser un ancien président de la République. Ce qui est venu accompagner cette horreur, c'est la peur. C'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. On a terminé l'année avec Zemmour, on l'a commencé avec Michel Houellebecq, avec une obsession encore une fois de l'islam. Il est hors de question de remettre en cause liberté d'expression, tout ça on est bien d'accord, on est dans le débat démocratique. Et c'est la peur, je le disais tout à l'heure, lorsqu'on appelle, on entend des politiques ou le président de la République parler d'unité nationale, on dit oui, mais on sait très bien que ces dernières années, il y avait un nous, il y avait un vous. Je ne suis pas un porte-parole, mais je pense que les musulmans rêvent d'être inclus dans ce nous, dans cette unité nationale. Et je me souviens des dernières horreurs qu'on a eues avec Daesh et cette campagne Not in My Name. Not in my name, d'accord, bien sûr, bien entendu, mais en tant qu'humain, en tant que citoyen, en tant que français, tout ce que vous voulez, mais pas en tant que musulman, on l'a dit tout à l'heure, gangster, pourriture, on démonstre. Moi, comme vous tous ici, ce qui est terrible, on vit une époque où on voit des gens mourir en direct avec les nouvelles technologies. Et moi, les derniers mots de ce policier, Ahmed, 42 ans, résonneront pendant longtemps. C'est bon, chef, qui lui dit c'est bon, stop, tu m'as eu, tu m'as tiré dessus, c'est pas la peine de m'achever. Aujourd'hui, il faut renvoyer chacun à ses responsabilités. Là, aujourd'hui, je suis entouré de journalistes, j'en suis heureux. J'attends le jour d'après. J'attends demain, j'attends les jours qui vont venir et les unes des quotidiens, des magazines, des hebdomadaires. Et là, je saurai si on est vraiment dans cette unité nationale dont le président de la République a parlé, ou si on sera dans l'amalgame comme on a eu à déplorer ces dernières années. Voilà.
Bonjour, ici Francis Pisani. Dans le désarroi, je m'accroche à deux images. La première est celle vite retirée du tueur assassinant un homme à terre, blessé, désarmé. J'ai peu d'atomes crochus avec ceux qui ont pour fonction de faire respecter l'ordre, d'empêcher que ça bouge. Et le voleur m'est toujours plus sympathique que le pendeur. Je ne suis pas pour rien, fils de Brassens et de 68, sympathisant de plus d'un trublion. Mais ils étaient tellement humains, ces flics dépassés par les événements comme nous le sommes tous, comme le montre le bordel total aux alentours du massacre pendant les premières minutes. Dépassé, sauf un, qui comprend que les tueurs ne peuvent pas repartir vers le centre de Paris et a l'intelligence fatale de les rechercher de l'autre côté du boulevard Bichard-Lenoir alors qu'ils prennent le chemin du nord. On voit l'homme masqué qui cavale en direction du blessé à terre et l'exécute sans s'arrêter plus que ce qu'il faut pour viser la tête. Et ce qui compte plus encore, de l'autre côté de l'arme, il y a le flic apeuré, courageux, conscient, protégeant des gens avec lesquels il n'est peut-être pas d'accord contre des assassins qui pourraient porter le même prénom que lui, Ahmed. Curieusement, il me fait penser au type en chemise blanche, cartable à la main, devant les chars qui ont écrasé le printemps de Beijing, un homme seul face à la force destructrice. L'autre image, que nous ne verrons pas, mais que je me représente sans peine, avec horreur, et celle de copains réunis pour bosser dans la bonne humeur, surpris par deux énergumènes masqués qui les abattent froidement, un par un, en les nommant, alors qu'ils exercent leur plus belle fonction, cogiter, discuter, pour nous faire rire et penser en même temps. Ce massacre d'un collectif de journalistes très rare me fait penser aux attaques, œuvres du même fanatisme, contre l'école de Peshawar au Pakistan et contre Malala. Ils veulent détruire la liberté d'apprendre, de penser et de s'exprimer, de changer. Entreprise d'autant plus dangereuse qu'elle est systématique et brutalement menée par des individus convaincus d'avoir raison, ce qui oblige à s'interroger, ne serait-ce que pour marquer la différence. La réaction au massacre est impressionnante, en France et dans le monde, mais servira-t-elle à quelque chose? Que peut la plume contre le fusil quand celui qui le porte tire sur la gâchette? Réflexion et détermination, survivront-elles à l'émotion? Saurons-nous réagir avec efficacité et mesure en même temps? Qu'allons-nous comprendre? Qu'allons-nous faire? L'échelle de l'entreprise destructrice et ses ravages quotidiens nous réveillent, nous obligent à agir contre elle. Mais le problème apparaît chez tous ceux qui sont convaincus d'avoir raison et sont prêts, en son nom, à utiliser la force. Ça dérape vite. C'est toujours destructeur, jamais suffisant, à condition que les autres, c'est-à-dire nous, réagissions sans fanatisme, en commençant par l'intelligence, le courage, le rire, la dérision, la satire. N'oublions pas la bande à Charlie Hebdo, n'oublions pas Ahmed, n'oublions pas ces images.
Il faut qu'on réfléchisse à ce que voulaient ces gens.
Jean-Pierre Dubois, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme.
Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'ils voulaient parce que je suis aussi obsédé par autre chose. Il y a un peu plus de 13 ans, d'autres attentats qui ont tué près de 3000 personnes ont parfaitement réussi. Parce que leur but était non seulement de tuer ces 3000 personnes, mais leur but était de nous faire tomber dans un piège. Et nous y sommes, nous. Nos pays y sont assez largement tombés. Il ne faudrait pas qu'il en sorte des patriotactes de ce genre de choses. Voilà. Et je ne dis pas cela pour être le droit de l'homiste de service. Je dis cela parce que c'est justement le but que cherchent ces gens. Ils ne supportaient pas la liberté de Charlie Hebdo, ils ne supportaient pas la liberté de la presse, ils ne supportent pas la liberté en général et ils ne supportent pas que les démocraties fonctionnent comme des démocraties. Et à chaque fois qu'on fait des patriotactes, des Abu Ghraib, des Guantanamo, ou à chaque fois qu'on laisse se développer, comme ça a été le cas en Irak depuis maintenant près de 2 ans, des situations de discrimination qui dressent les gens les uns contre les autres, qui produisent une espèce d'aveuglement effroyable, et qu'on laisse faire, et qu'on dit soit c'est pas très grave, c'est très loin, soit on envoie quelques canonnières et ça va s'arranger, ce qui est encore pire. À chaque fois qu'on fait ça, c'est pas seulement là-bas qu'on développe la barbarie, c'est ici. Et le grand enjeu pour moi, il est là. Pas pour moi, pour nous. Pour nous tous et pour la Ligue collectivement. C'est l'unité. Pas l'unité, pas l'union sacrée des forces politiques, c'est pas la question. L'unité des citoyens autour de leur liberté. Quelle que soit leur croyance ou leur non-croyance, leurs origines, leur culture, leur position dans la société. L'attachement commun à ce qui fait la République. Ça, c'est inconditionnel et c'est quelque chose qu'il faut que nous défendions. C'est ce qu'on a entendu ce soir dans toutes ces réunions. Et il faut que ça continue. Mais il faut que nous ayons non pas une espèce d'illusion de naïve que tout le monde se donnerait la main, mais l'entretien de quelque chose qui va bien au-delà des préoccupations habituelles. Et ce n'est pas seulement l'unité de la société qui est en cause, ce n'est pas seulement l'unité des citoyens, c'est l'unité du monde. Parce que nous vivons dans un monde où ce qui se passe et qui est effroyable et qui est inhumain et qui a tué déjà 10% de la population syrienne depuis 3 ans, dans une indifférence assez générale, mais pas seulement, ce qui se passe là-bas, ça peut se passer ici. C'est horrible ce que nous avons vécu à Paris. Mais je ne pense pas seulement moi aux 2900 morts de New York, je pense aux 200 morts de Bali en 2002. Je pense aux 190 morts et aux 1400 blessés de Madrid. Vous imaginez, s'il y avait eu ça à Paris, combien de vigipirates se seraient multipliés? Je pense aux 60 morts de Londres et je pourrais hélas continuer la liste. Donc il faut que nous ayons conscience de ça, c'est que ce n'est pas seulement l'unité des citoyens dans un pays, c'est qu'il y a une unité de tous ceux qui sont attachés aux libertés qu'il faut cultiver, développer une solidarité citoyenne à l'échelle où ça se pose. Parce que ce que nous laissons faire là-bas, nous le récoltons ici.
D'un chagrin, j'ai fait un repos. Au coin de moi, je nous regarde. Et on a tout pour être beau, même si le temps nous retarde. Humain. C'est joli après tout. on travaillera nos rencontres pour unir les sages et les fous, lire la même heure sur nos montres. Alors c'est rien, c'est la fatigue. Si on a peur encore du noir, si on se cache, si on s'endigue, dès demain, on retournera voir. On peut bien pleurer dans nos bras. Hier, on se serrait les poings. J'ai pas senti qu'il faisait froid. Je reviens vite. Les copains. C'est pas la fin. C'est une pause. J'ai toujours eu l'envie des autres de sourire à celui qui ose, de fou rire au moindre des nôtres. C'est juste que c'est la gueule au monde. Je sais, on fait jamais assez. On en a bouffé de l'immonde. Et puis après, ça va passer. Laissez-vous lumière allumée. J'ai besoin de vous souvenir. Et si ce soir je vais pleurer, ben demain, je vais revenir.
Demain, comment on va continuer à pouvoir faire notre travail ?
David Servenay, la revue dessinée.
Et notamment, comment ces dessinateurs qui sont, moi je l'ai découvert avec l'aventure de la revue dessinée, qui est une aventure collective, et ce qui était Charlie Hebdo aussi, qui sont un peu, qui ont une force incroyable, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, un dessin, c'est quelque chose qu'on peut comprendre sans même savoir lire. Et du coup, ça a beaucoup plus d'impact, vraisemblablement, sur la société que ce que peuvent avoir nos plus belles enquêtes, nos plus beaux reportages, etc. etc. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard si, précisément, les gens qui ont mené cette opération ont visé un journal de dessinateurs, parce que ce sont des gens qui peuvent avoir une influence très importante sur notre société.
Sonia Kronlund, de France Culture.
Et en fait, j'ai simplement pensé à une petite citation qu'avait dit le Premier ministre norvégien au lendemain de l'assassinat de plus de 60...
70.
Plus de 70, voilà, sur l'île du Toya. Et le lendemain, il y avait un grand rassemblement avec toutes les familles des victimes, etc. Et Jan Stoltenberg, il s'appelle, il avait dit aux parents, nous allons punir les coupables, et ce ne sera pas un procès, mais la punition, ce sera plus de démocratie, plus de tolérance et plus de générosité.
Est-ce que je peux juste vous demander ce que vous ressentez aujourd'hui ?
Alors là, je dirais pas de mots. C'est ça le problème, c'est pas de mots, mais pas de haine non plus. Liberté d'expression.
C'était la spéciale Charlie, hors série de l'Atelier des médias, proposé par Manon Mella, Dilet Sadawi, Mélissa Barra, Simon Decreuse, Francis Pisani, Marie-Catherine Beuth et Ziad Malouf. Merci aux équipes de Mediapart, des Inrecuptibles et de Small Bang. Ils nous ont permis d'exploiter leurs sons, les sons de cette veillée en hommage aux équipes de Charlie Hebdo. Merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de témoigner dans cette émission. Je vous signale aussi que sur la plateforme Mondoblog, plusieurs auteurs, dessinateurs, dessinatrices ont partagé leur regard sur cet événement. Nos pensées vont enfin aux victimes de la tuerie du 7 janvier et à tous leurs proches.